Bonjour à tous et merci d'être là malgré le beau temps.
Oui.
Mais c'est vrai, dès qu'il fait bon, on se demande. Et c'est très satisfaisant de vous avoir avec nous ce soir. Bienvenue à cette conférence Éco, en partenariat avec CapScience, le Centre de culture scientifique, technique, industrielle de Bordeaux et la librairie Mola. Nous accueillons aujourd'hui Patrick Boucheron. Patrick Boucheron, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences Éco, afin de mieux vous connaître, nous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres du mot Éco.
D'accord.
On est parti. E comme événement. Si je vous dis événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ?
Ma mort. Enfin, c'est l'avenir.
Très belle réponse. C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ?
Ce qui me désespère, c'est quand on croit que les choses sont inéluctables. Sinon la mort, les événements à venir ne sont pas fatals.
Si H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ?
Les enfants. Les miens, mais pas seulement.
Et enfin, O comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ? Pas le droit de répondre les enfants.
Non, moi-même. Enfin, je veux dire ma volonté. J'ai un optimisme de méthode. Voilà. On peut être pessimiste par conviction ou par anthropologie, mais ça sert à rien. Donc, si on veut faire quelque chose, il faut décider d'être optimiste.
Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Pour compléter ce portrait, vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Âge et de l'histoire urbaine, professeur au Collège de France où vous occupez la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale du 13e au 16e siècle ». C'est bien ça ?
Oui.
Au-delà des nombreux ouvrages que vous avez publiés et coordonnés comme « L'histoire mondiale de la France » ou d'autres que vous pourrez retrouver tout à l'heure sur la table à la dédicace, vous êtes un infatigable vulgarisateur et diffuseur de savoir, ce qui pour un directeur de centre de sciences est tout à fait formidable. Nombre d'entre nous vous ont vu animer l'excellente série « Quand l'histoire fait date » sur Arte, notamment.
Ça continue.
Eh oui.
Eh oui.
Combienième saison ?
Cinquième.
Cinquième saison. Ouais. Vous publiez aux éditions L'Univers historique un livre tout à fait passionnant qui s'intitule « Peste noire », où vous explorez la plus grande catastrophe démographique de l'humanité. Mais c'est un livre d'histoire des pestes, mais également d'historiographie de la peste, d'articulation entre l'histoire, génétique, sciences du climat, épidémio, éthologie, politique et économie. Et j'en oublie, tellement vous croisez. Il y a aussi, je me rends compte que j'ai pas mis la littérature, mais il y a la littérature et les arts. Avant de rentrer dans le détail de l'histoire et des impacts de la peste noire, peut-on dire que la peste est par nature un fait social total ?
Ah oui, certainement, évidemment, comme toute épidémie, mais en même temps, on se dit, quand on est historienne ou historien de métier, ah, l'épidémie, c'est un beau sujet, parce que l'ensemble, au fond, rien de ce qui est humain n'est étranger à l'épidémie, pour le dire comme Montaigne. Sauf que, en fait, c'est un sujet maudit pour les historiens, parce qu'il est désespérément répétitif, parce qu'il est incertain, et parce qu'en réalité, il brouille les temporalités. Le temps épidémique, d'ailleurs, on l'a vécu il y a 6 ans, jour pour jour presque. Le temps épidémique, c'est un temps de confusion des temporalités, où en fait on se laisse hanter par des archaïsmes, donc des fragments du passé qui viennent de loin, et également effrayés par des perspectives d'avenir qu'on ne contrôle plus. Donc finalement, ce que ça nie, l'épidémie, c'est le cours de l'histoire. Et donc, c'est pas si facile que ça de faire une histoire, l'histoire d'une épidémie.
Ça nie le cours de l'histoire parce que ça la rompt.
Parce que ça la rompt, mais aussi parce que, d'une certaine manière, on ne comprend pas, au fond, que ce qui arrive... On tombe toujours malade du passé. Mais c'est un passé dont le retour est inévitable et qui demeure imprévisible. Si on reste sur la Covid... tous les scientifiques savaient qu'une pandémie de type SRAS était inévitable. Elle était inévitable, mais imprévisible. On savait qu'elle allait arriver, et quand elle arrive, on est surpris. Donc ça met à l'épreuve toutes nos catégories, au fond, d'historicité. Et comme moi, je ne sais pas écrire autrement un livre d'histoire qu'en interrogeant la manière d'écrire l'histoire, et même au-delà, ce que c'est que l'histoire, ce qu'elle peut, et ce que c'est que le temps, eh bien, tout ça fait un objet complexe, complet, mais complexe.
objet complexe, renforcé par le fait, enfin, de ce que j'ai cru comprendre. Je vous pose la question, comment on travaille quand on est historien, qu'est-ce qu'on a comme base documentaire, et comment aussi les nouvelles avancées scientifiques des autres disciplines viennent éclairer ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment, quel est le corpus scientifique qu'on a, le corpus documentaire?
Alors au départ, moi, la peste noire, donc on appelle peste noire un moment paroxystique de la seconde pandémie de cette maladie infectieuse, de cette anthropozoonose qu'on appelle voilà, la peste, c'est-à-dire cette maladie causée par Yersinia pestis, entre 1347 et 1352. C'est ça, la peste noire. Moi, on me l'a enseigné, et je l'ai enseigné sur, je dirais, le corpus ordinaire, hein, du travail des historiennes et des historiens, sources écrites, archives, même si, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne sont pas si abondantes sur cet événement monstre. Littérature, avez-vous dit, c'est la même chose. On peut penser effectivement à Boccace, au Décaméron, mais en réalité, les témoignages sur cette catastrophe qui reste à ce jour la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité ne sont pas si importants qu'on peut le croire. Et puis archéologie, histoire de l'art et sciences sociales. C'était ça le kit, au fond, de compréhension jusque il y a très peu de temps. Par exemple, vous faites allusion à cette série documentaire « Quand l'histoire fait date » sur Arte. J'avais déjà fait un épisode « Peste noire » en 2017. Je l'ai même intégré dans le livre qui est paru quelques années plus tard, voilà, également au Seuil, mais presque comme une archive ou déjà comme une archéologie, car depuis 2017, tout a changé. La peste noire n'est plus ce qu'elle était. Pourquoi ? Parce que effectivement, d'autres sciences se sont penchées sur ce berceau ou ce tombeau. Évidemment, la science médicale, mais ça, c'est pas nouveau. La biologie, la chimie moléculaire, les sciences de l'environnement, mais la grosse affaire, c'est la génétique. Voilà, c'est la génétique qui a tout bouleversé. Et par exemple, en 2017, le fait que c'était le même agent pathogène Yersinia pestis coupable de la première, de la deuxième et de la troisième pandémie, peste justinienne, peste noire et peste contemporaine dans laquelle on est encore et qui commence en Chine en 1850, était une hypothèse d'historien. C'était pas une certitude. Aujourd'hui, c'est une certitude. Va-t-on pour autant déléguer à la science le soin de répondre aux questions que les historiennes et les historiens de métier posent? Nullement. Il n'y a que dans les mauvais polars ou dans la presse à scandale que, quand on dit « l'ADN a parlé », c'est terminé. C'est le juge de paix. En réalité, la science, elle déplace nos questions. Elle les enrichisse, elle les densifie, elle les épaississe, mais jamais elle ne coupe court à un questionnaire d'historien. Donc, voilà ce que je voudrais vous répondre, et c'est ça qui est le plus important dans ce dialogue que nous avons sur la culture scientifique. C'est que moi, je me suis mis comme je pensais pas devoir me mettre, au fond, parce que c'était pas ma spécialité, à lire, ben voilà, de la littérature scientifique, non pour me prétendre l'égal de celles et ceux qui, voilà, séquencent l'ADN fossile de l'agent pathogène. J'en serais bien incapable. Il s'agissait juste de comprendre, enfin, d'en apprendre suffisamment pour comprendre ce qu'il disait, et d'aligner ses connaissances. Et donc, à ce moment-là, l'épidémie, comme d'autres sujets, mais l'épidémie particulièrement, devient un laboratoire d'interdisciplinarité.
Vous l'avez évoqué, vous avez évoqué les trois vagues de peste avant de parler de celle de 1348. Il y en a depuis quand ? On sait ça ou...
C'est une maladie relativement récente à l'échelle de l'évolution, beaucoup plus récente que la tuberculose, par exemple, ou que la lèpre. On estime aujourd'hui qu'elle apparaît à l'âge du bronze. À moins 30 000. Mais essentiellement comme une maladie des rongeurs. C'est-à-dire que la peste, je veux dire cette anthropozoonose, cette maladie animale qui passe de temps en temps et en fait accidentellement par un saut d'espèce, nous savons fort bien ce que c'est aujourd'hui, à l'homme, n'est qu'accidentellement une maladie mortelle, une maladie humaine. Et c'est précisément parce qu'elle est peu adaptée à l'humanité qu'elle est terriblement meurtrière. C'est l'inverse de la lèpre, si vous voulez. La lèpre, c'est vraiment la maladie humaine par excellence. Elle est très mutilante et très peu mortelle. Et donc, d'une certaine manière, elle s'installe. Il y a quelque chose de paroxystique, une flambée effrayante dans la peste, parce qu'elle n'est pas adaptée à l'homme. Voilà. Et donc, là encore, c'est en cela que l'histoire de la peste noire devient aussi contemporaine. En tout cas, moi, j'ai essayé d'en rendre l'écriture de l'histoire contemporaine de la science en train de se faire. Dans la science d'aujourd'hui, qui considère One Health, une seule santé globale, eh bien, c'est le monde des vivants, de la diversité des vivants, qu'on doit saisir. Et dans ce cas-là, on dira que la peste est une maladie qui sollicite environ 80 espèces animales, dont nous, mammifères, comme le disait Michel Léris, ma mère l'était, il faut s'y faire, c'est ça la définition du mammifère. Et au risque d'infliger à l'humanité une nouvelle blessure narcissique, je dirais que les études, disons, écologiques, médicales, biomoléculaires, montrent que faut vraiment que cette pauvre puce, puisque vous connaissez effectivement le système standard, même si on va voir qu'en réalité, il n'explique pas tout, hein, le rat, puce, homme, il faut vraiment que la puce ait tué son dernier rat, pour que, faute de mieux, elle saute dégoûtée sur le mammifère humain dont elle ne goûte guère le repas de sang. Mais elle est affamée, elle est au point de mourir, et elle nous contamine ainsi.
Oui, j'avais pas compris ça, qu'en fait, c'était quand tous les rats étaient morts,
ouais,
que la puce de désespoir...
Ouais. Et un désespoir poignant. Hein. Voilà. Il faut voir son œil.
Et alors...
Alors on reviendra. Il explique pourquoi c'est une très mauvaise idée. Par exemple, ça, c'était la technique soviétique dans les années 70 en Asie centrale, où la peste est toujours endémique. La dératisation est une très mauvaise idée.
Oui.
Ben oui. Mais encore faut-il le savoir. Oui.
Que ma mère serait pas d'accord. Alors. Mais alors, du coup, je vais sauter un truc plus tard parce qu'on est, sur les rats. Il y a cette anecdote formidable.
Où, je vais sauter, hein, comme.
Je m'en suis pas rendu compte, ça l'a
tout va bien. Tout va bien.
Non, il y a cette anecdote formidable, en fait, où il y avait cette tradition de se dire quand les rats meurent, la peste arrive. Mais quand elle est arrivée, les rats ne mouraient pas et on les voyait pas et du coup, c'était pas la même maladie.
Alors effectivement,
et c'est pas du tout ça, en fait.
Ouais, ce qui est tout à fait saisissant. C'est de considérer que, et ça c'est la beauté de cette histoire, que nous pouvons effectivement faire les malins avec cette maladie atroce qui a tué 60 à 65% de la population européenne, mais quand elle les tue, ils ne savent rien de ce qui arrive. Oui. Nous pouvons dire que c'est la deuxième pandémie, parce qu'il y en a eu une première à l'époque justinienne, à la fin de l'Antiquité tardive, qui s'achève en 750, mais l'année 750, pour quelqu'un qui vit en 1347, ça n'existe pas, en fait. Il y a un gouffre temporel. Donc, en réalité, c'est une maladie nouvelle pour eux, qu'ils ne comprennent pas, et effectivement, qu'ils ne peuvent pas comprendre, en fait. Voilà, parce que rien dans leur culture, et en particulier dans leur culture médicale, ne leur permet de saisir ce que c'est qu'une contagion, par exemple. Ils vivent dans un monde sans microbes. Et ça, c'est aussi, je réponds à votre question, mais de cette manière, ça, c'est aussi pour moi un défi d'écriture. Je veux me mettre dans une situation de savoir et de non-savoir. De savoir, on va en parler, et c'est important d'en parler ensemble, parce que c'est important de défendre la science, et cette manière, effectivement, de rendre l'histoire contemporaine de la science en train de se faire. Mais si c'est de l'histoire, alors, comme le disait Raymond Queneau, c'est l'histoire et la science du malheur des hommes. Et le malheur de ces femmes et de ces hommes au milieu du XIVe siècle, c'est qu'ils étaient frappés par un mal qui répand la terreur et dont ils ne savaient rien.
Ils ne pouvaient pas nommer, d'ailleurs.
Et qu'ils ne pouvaient même pas nommer, sinon en disant « pestis », qui est un mot du passé, qui ne dit rien d'autre que ce qui affole notre compréhension, ce qui fait délirer le langage, ce qui est hors de portée de toute capacité à saisir la situation. Les médecins, qui n'avaient pas, ou différemment, on en reparlera peut-être, le concept de contagion, qui n'avaient pas remarqué, en tout cas en Europe, que la zoonose précédait l'épidémie, n'ont aucune idée, en fait, de la propagation. En Europe, ai-je dit. En Europe du Nord, en tout cas. Les médecins arabes, en Andalousie, en Égypte surtout, plus tard dans l'Empire ottoman, décrivent en revanche la mort des rats qui précède celle des humains. Est-ce à dire que les médecins de l'Europe latine étaient aveugles ? Non, ils vivaient sous un climat plus froid, et sous nos climats, les rats se cachent pour mourir, alors que dans les pays chauds, ils sortent pour mourir. Donc il y a là une épizootie cachée en Europe.
Et du coup, ils ont cru que c'était pas la même chose, ils le retrouvaient pas dans la littérature, alors que c'est pas la même race de rats.
Non, mais alors ce qui est absolument passionnant, c'est que lorsque on commence à saisir... Alexandre Yersin, en 1894, n'a pas encore compris ça. Hein. C'est un autre pasteurien, Paul-Louis Simon, 6 ans plus tard, en 1900, qui saisit effectivement le rapport puce-rat-homme, c'est-à-dire le vecteur indirect. Mais avant, il y a des hygiénistes, des médecins qui regardent la littérature, regardent même les tableaux. Je parle d'une scène que je trouve absolument fascinante avec Adrien Proust. Adrien Proust, c'est le père de Marcel. C'est le père aussi de la distanciation sociale. C'est un hygiéniste. C'est celui, effectivement, qui va être le pionnier de la grande mobilisation internationale contre ce qu'on appelle les pestes d'Orient. Hein, grand congrès à Venise, bon voilà, il y a des savoirs mondiaux de la peste, et il regarde même des tableaux, et dans le tableau de Poussin, par exemple, qui est la peste des Philistins, donc là, ça décrit la peste de Rome en 1630, on voit des rats. Et Poussin, il sait pas, mais il a vu des rats mourir sans comprendre. Mais si vous voulez, c'est comme dans Blow Up d'Antonioni, quoi. On prend la photo et puis après on se dit ah, il a enregistré quelque chose en fait à son insu. Bon, c'est vrai que moi j'ai voulu essayer d'écrire une sorte de roman noir. C'est le roman noir de nos forces de vie, mais c'est un roman noir, c'est une enquête. Et dans une enquête, qu'est-ce qu'on fait? On relève les indices. Même si on les comprend pas, on les relève. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les épidémiologistes, ils lisent également l'archive, en fait, de cette médecine ancienne qui ne comprend pas, mais qui décrit, et qui parfois n'en tire aucune conséquence, sauf qu'elle enregistre.
On poursuit l'enquête parce que nous, on a toujours une vision très européano-centrée de la peste noire. Pour le quidam moyen dont je fais partie, elle a débuté à Marseille, a dévasté l'Europe par vagues, très bien. Pour le plus curieux, et ceux à la recherche d'anecdotes, la peste serait issue du siège de Caffa, dans lequel les hordes d'or auraient catapulté des morts infectés sur des chrétiens enfermés dans la ville, signant ainsi le premier acte de bioterrorisme. Mais en fait, là, oui, quand même. Et là, en fait, c'est là que commence... On parlait d'enquête, là, on peut refaire l'enquête, parce que là, pour le coup, on a fait des bonds de géants pour se dire, en fait, c'est quoi la focale, la bonne focale pour trouver d'où vient cette...
Exactement. Exactement. Nous, on a évidemment une vision... européocentrique des choses. La peste, elle arrive à Marseille en novembre 47, et puis elle a le bon goût aussi, lorsqu'elle s'en va, de faire un petit coucou à Marseille en 1720, 1720, 1722. Donc on va dire, seconde pandémie, 1347, 1720, voilà. Après, dans les années 1730-40, il y en a encore à Messine, à Odessa, mais on regarde plus. C'est fini parce que elle est sortie de scène. Elle a sorti son grand jeu. Donc le grand jeu, c'est celui de l'orientalisme épidémiologique. C'est-à-dire effectivement, elle arrive d'Orient et elle repart ensuite. En fait, c'est plus compliqué que ça. Manière, comme vous le dites, c'est de savoir comment on règle la focale, puisqu'on parlait de blow-up. Effectivement, c'est quoi la bonne échelle, c'est quoi le bon focus de netteté. Alors, essayons de rembobiner à partir de cette scène de bioterrorisme. Nous sommes à Kaffa, donc sur la mer Noire, péninsule de Crimée, plaque tournante des échanges euro-asiatique, voilà ce qu'on appelle la Horde d'or, c'est-à-dire les Mongols qui dominent l'ensemble de ce grand couloir de civilisation. Ils assiègent une colonie génoise, mais eux-mêmes sont malades. Donc là, on est en 1345, donc voilà, avant l'arrivée à Marseille. Eux-mêmes sont malades et de désespoir, ils catapultent leurs cadavres sur les assiégés.
Sachant qu'on n'a qu'une source qui dit ça.
C'est un notaire qui a plaisance et qui n'a rien vu. Et pourtant, toutes les histoires, qu'elles soient populaires ou savantes, de la peste noire, nous racontent ainsi le début. Ça a commencé comme ça. Pourquoi ? Parce que la scène est trop belle, parce qu'elle correspond à toutes nos hantises, celle du bioterrorisme, justement. Mais le bioterrorisme, ça commence avec l'Iliade. La première, le roman de fondation de l'Occident, la première fois où un poète prend la parole, Homère, dans l'Iliade, c'est pour pleurer la mort des Grecs, domptés par la mort et la peste. Et la peste qui vient évidemment d'Orient. Et puis aujourd'hui, le bioterrorisme, ça nous intéresse. Et accessoirement, sans faire flipper personne, aujourd'hui, Yersinia pestis est quand même l'agent pathogène le plus meurtrier pour l'homme, très facilement vaporisable et donc ainsi susceptible de créer la pire des maladies, c'est-à-dire la peste pulmonaire, 100% de mortalité. Donc c'est un enjeu de bioterrorisme. Et si je peux m'appuyer sur une littérature scientifique aussi considérable, c'est parce qu'elle est intensément financée. Et si elle est intensément financée, c'est pas par amour de l'histoire médiévale. C'est parce qu'il y a un enjeu, effectivement, de sécurité sanitaire. Bon, donc, on a cette scène-là. Cette scène-là, elle ne peut pas dire la vérité. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'un cadavre n'est très probablement pas contagieux. Voilà, une fois que le cadavre est froid, la puce, elle saute et elle part ailleurs. Peut-être que les Mongols ont pu croire que le cadavre était contagieux, ce qui est déjà très peu probable, et en réalité, ils prenaient soin de leur mort, mais en tout cas, s'ils ont pu le croire, ils ne l'étaient pas. Donc, cette histoire, on pourrait la récuser. Mais en fait, elle nous donne quand même la bonne direction. C'est-à-dire que en 1345, il y a cavaliers mongols qui sont commandés par le Ran Janisberg de la Horde d'Or, qui tombent malades. Voilà. C'est donc qu'il y a des arrière-pays de la peste. Et c'est ainsi qu'on peut reculer jusque au rebord du plateau tibétain, sur ce qu'on appelle le Tian Shan, voilà, une région aujourd'hui en Mongolie et notamment caractérisée par un très très beau lac qui s'appelle le lac Issyk-Kul. Et sur ce lac Issyk-Kul, il y a des Nestoriens, c'est-à-dire des chrétiens, qui sont enterrés. Et sur ces cimetières, on voit qu'il y a eu une mortalité énorme en 1338, donc 10 ans avant. Et depuis la fin du 19e siècle, on commence à se dire, mais c'est bizarre. Et puis en plus, sur les stèles, il y a on dit qu'ils sont morts d'un mot syriaque, mawatan, un peu vague, mais qui veut dire quand même pestilence, épidémie. Bon, il y a plein d'épidémies, mais quand même, c'est bizarre. Et puis ça fait des scores qui sont des scores de peste, c'est-à-dire une surmortalité de x15. C'est-à-dire en 1338, il y a 15 fois plus de morts qu'en 1337. Bon. 2024, le Max Planck Institute dépêche ses équipes et va chercher dans un peu de pulpe dentaire de ces deux cimetières de la vallée du Tchou, à Issyk-Kul, un peu d'ADN fossile. Pof, l'ADN a parlé, c'est la peste. Donc voilà que en Asie centrale, on est malade de la peste à partir de 1338. Est-ce qu'on peut reculer encore comme ça jusqu'en Chine? Probablement pas. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce lieu-là, au rebord effectivement du plateau tibétain, c'est le réservoir naturel de la peste. C'est-à-dire l'endroit où, en fait, les rongeurs, mais ce ne sont pas des rats, ce sont des marmottes.
J'étais très déçu. J'adorais les marmottes, moi, avant.
Ah, alors. Breaking news. Breaking news. C'est important. Je sais bien que c'est là. Je sais que mon livre a fait beaucoup de mal.
Ah, bah oui. Ah, bah oui.
Aux marmottes.
Enfin, les marmottes, le papier d'alu, tout ça, rien du tout.
Il faut avoir le courage de dire qu'effectivement, il n'y a pas que le rat, il y a la marmotte, que c'est probablement le principal réservoir animal de la peste, qu'on le sait en fait depuis la peste de Mongolie en 1900, qui a été effrayante, et c'était des marmottes grises, Marmotta sibirica. Et les nôtres, Marmotta marmotta, les petites gentilles, là, celles des Alpes, pareillement. Tous les ans, et là je prends mon air grave, tous les ans, justement autour du lac Issyk-Kul, qui est vraiment le réservoir naturel de l'épidémie, des gens meurent parce qu'ils mangent cru des marmottes. Oui, bah, les Mongols, au Moyen-Âge, on les appelle les tartares. Ils mangent cru. Voilà. Alors, ne mangez pas de tartares de marmottes, parce que là, vous y avez droit.
Ah, vous n'y attendez pas aux marmottes.
Et non. Et c'est là où on peut rembobiner, c'est parce qu'on se dit, bon, d'accord, mais alors très bien, dans ce cas-là, ce que j'appelle l'orientalisme épidémiologique, c'est-à-dire le fait que la peste, ça vient toujours d'ailleurs. Toujours d'Orient, toujours par bateau, toujours avec les rats, avec tout ce que ça trimballe, en fait, d'imaginaire, de l'invasion, les rats, etc. Si la peste est, en fait, endémique dans des réservoirs animaux, ça pose deux questions, qui sont, en fait, des questions que l'épidémiologie pose. Ça a été aussi celle du Covid. C'est-à-dire, quand est-ce que, en fait, l'épidémie saute l'espèce, c'est-à-dire lorsqu'elle sort du réservoir animal, et en 1338-1345, on le sait très bien, parce qu'il y a un changement climatique. Voilà. Et donc, évidemment, il y a des flux commerciaux qui passent à des endroits où ils ne devraient pas passer, en particulier, effectivement, dans la mer d'Azov, qui est, marché de Wuhan du 14e siècle, quoi, et c'est là où ça passe à l'homme. Et deuxièmement, une fois que c'est passé, eh bien, ça va chercher, ça va se renicher ailleurs. Et par exemple, maintenant, nous savons que la peste est endémique dans les Alpes, et donc en fait, elle va redescendre des montagnes et remonter ensuite régulièrement à partir de 1360 jusqu'à toutes les pestes modernes. Au 15e, au 16e, au 17e siècle.
Elle ne revenait pas. Elle, revenait
elle
pas
ne revenait pas. Elle était déjà là.
De la montagne
elle, était, elle était déjà là. D'accord. Ce qui fait une toute autre histoire, bah oui. Au fond. Qui fait une histoire endémique.
Je suis obligé d'avancer parce que le temps,
et oui, pardon,
il continue à rouler, quoi, et on a du boulot. Donc là, on est. Vous avez dit tout à l'heure, parce qu'on est toujours un peu obsédé quand on parle d'épidémie, on l'a vu pendant le Covid, par le nombre de morts. Ça nous, enfin, voilà. Vous avez dit 50-60% de la population européenne.
Voilà. Même plus, plutôt 60-65, oui.
60-65, partout ?
Non, en moyenne. Oui. Donc, à certains endroits, plus sans doute. Mais de manière à la fois globale et discontinue. C'est ça qui est compliqué. Ça veut dire qu'il peut y avoir des endroits épargnés, ce qu'on appelle l'aléa épidémiologique, mais des endroits totalement épargnés, le Béarn, peut-être la Bohème, il n'y en a pas tant que ça.
Je vais passer toutes les très bonnes explications sur comment on appréhende cette propagation pour m'intéresser aussi à quelque chose que vous développez particulièrement, qui est la résilience et la façon dont la société réagit. Donc quand on a que 40% de survivants, on imagine que les sociétés sont profondément déstabilisées. Il serait légitime d'imaginer qu'elles se sont effondrées, mais vous démontrez qu'en fait elles sont résilientes. Sur le plan institutionnel, ça se traduit comment ? Comment on sait qu'elles sont résilientes ? Parce qu'on a toutes ces images de panique funéraire, de mort dans la rue, etc. Et vous dites que c'est pas vraiment le cas.
Alors, par exemple, sur la panique funéraire, non. On peut le dire. On peut dire effectivement que lorsque Boca se décrit les scènes hallucinées au début de Decameron, donc en 1350, d'une société qui s'affole, qui panique, qui n'enterre plus ses morts, qui se sombre dans la débauche et qui remet en cause la filiation, la loi, la morale. En fait, c'est ce qu'il a lu dans Thucydide. Thucydide, la peste des Athéniens, 430 avant notre ère, qui n'est pas une peste, qui est une épidémie, est la matrice narrative de tout récit épidémique. Il dit ce qu'il a lu, pas ce qu'il a vu. Voilà. Ce qu'il a vu est terrible, mais pour être compris et pour être cru, il doit effectivement dire qu'il a vu ce que c'est qu'une épidémie. Bon. Et pourquoi, au nom de quoi je fais la leçon à Bocas ? Bah, précisément parce qu'il y a de l'archéologie funéraire. Parce que, voilà, ça c'est pas si récent que ça, que les archéologues, ils identifient des cimetières qui sont des cimetières de peste, des cimetières au temps de la peste, qu'ils peuvent dater de différentes manières. Et d'abord, ce ne sont que très rarement des cimetières spécifiques. Donc ça veut dire que les malades de la peste ne sont pas des pestiférés, on les éloigne pas, on les enterre avec les autres et on les enterre proprement, si j'ose dire, c'est-à-dire en respectant les rites, l'alignement, sépulture individuelle le plus souvent, dans des cercueils quand on peut, dans des linceuls sinon. L'idée qu'on peut se faire, par exemple, de la sépulture de catastrophe, telle que Daniel Defoe l'a décrit dans le journal de l'année de la peste, telle que peut-être à partir du XVIIe siècle, quand on a une autre idée de la contagion, elle a pu effectivement affecter quelques formes sociales. Au Moyen-Âge, on a l'impression que voilà, les sociétés font ce qu'elles ont à faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la violence, en particulier contre les Juifs.
On y reviendra. Oui.
Ouais. Mais au fond, y compris du point de vue religieux, cette idée que finalement on panique et on culpabilise, ce n'est pas si vrai que ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'essaye de montrer. Et c'est en fait le cœur. En fait, c'était ça le ressort. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un historien des pouvoirs. Et donc, ma question, c'était ça. C'était pourquoi un événement monstre n'a pas, au fond, les conséquences qu'on attend. Pourquoi, finalement, ça change rien ?
Non.
Si ça changeait tant de choses, vous le sauriez. On raconterait l'histoire comme ça. On dirait, après 1350, évidemment que on est dans un autre monde, le monde d'après. Ben non, il n'y a pas de monde d'après. Le monde d'après, c'est le monde d'avant, empire, dégradé, abîmé, transformé, mais pas comme on le pense. Voilà.
D'ailleurs, du coup, vous allez nous expliquer pourquoi le Washington Post se faisait le relais d'une étude scientifique en titrant, je cite, « Vous voulez réduire les inégalités, tentez la peste noire ».
Oui, parce que pendant la peste noire, évidemment... Alors la peste est une maladie égalitaire, donc elle tue également tout le monde.
C'est beau quand même.
Ouais. Les hommes, les femmes, les riches, les vieux, les malades, les bien portants... Et ça, il y a une image effectivement que vous connaissez, qui est celle de la danse macabre, qui effectivement emporte tout le monde dans le désastre, qui le dit très bien. À partir de ce moment-là, si la belle loi de l'offre et de la demande s'appliquait, eh bien, comme la main-d'œuvre est plus rare, elle est plus chère et les salaires devraient augmenter. Les salaires ont augmenté, les salaires nominaux ont augmenté. Mais si en réalité les salaires réels n'ont pas augmenté, c'est que les pouvoirs publics ont très vite pris garde dès 1348, 1349 en Angleterre et en France de limiter les salaires. Donc on voit bien que les pouvoirs publics ont, et aussi dans les villes italiennes, les villes allemandes, ont comme souci, au fond, que la société ne change pas et que surtout les plus démunis n'en profitent pas. Que les femmes, par exemple, ne puissent pas profiter de la situation, parce qu'on voit bien, effectivement, moi, mon livre il commence en suivant l'histoire d'une endeuillée, c'est une Marseillaise, en 1349, son mari est mort, son père est mort, sa mère est morte, ses frères et sœurs sont mortes, et donc et elle se retrouve à la tête d'une entreprise.
Et d'un héritage.
Et d'un héritage. Et ça, effectivement, va changer les règles successorales pour que ça n'ait pas lieu. Alors, juste, pas pour chicaner, mais vous remarquez que je ne dis pas résilience. C'est un mot que je n'utilise pas, que je n'aime pas beaucoup, en fait, parce qu'en fait, la résilience, c'est la résistance au changement. Et je ne pense pas que cette société ait résisté au changement. Elle a juste tenté de l'accompagner. Il y a un autre chapitre sur les paysages ruinés. Là encore, si tout s'effondre, on s'imagine que le monde naturel serait en sauvage. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est la revanche de l'inculte sur les blés. Alors non, en fait, tout va se transformer. En particulier, on va être dans une société agraire qui va redévelopper l'élevage, donc d'où une autre alimentation plus carnée, etc., qui va d'ailleurs renforcer l'état sanitaire des populations et qui va sortir en fait, avec une autre constitution médicale. Et ce qui est très intéressant, c'est que là encore, science nouvelle, la palynologie, toutes les sciences de l'environnement qui cherchent dans ce qu'on appelle les écofacts, c'est-à-dire ce qui laisse aucune trace, même l'ADN sédimentaire, etc., toutes les marques de cette transformation du monde naturel, du monde des vivants, après une catastrophe. Par exemple, on peut même mesurer, je crois que c'est dans la baie d'Abbeville, que les poissons, et oui, on trouve des fossiles de poissons, eh bien, leur taille augmente. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas pêchés. Bon. Donc, il y a plein de transformations. Mais le monde, d'une certaine manière, se transmet. Et la science de l'environnement, aujourd'hui, a un beau mot, je trouve, pour dire ça, mot un peu un néologisme, qui est transformation, c'est-à-dire que les paysages se transmettent en se transformant. Donc, le monde change d'aspect, mais il n'est pas ruiné. Voilà. C'est pas un monde en ruine. C'est ça qui est absolument fascinant et en fait admirable.
Oui.
Voilà, parce que en fait, moi, ce que je fais, c'est l'histoire des survivants.
Et ces survivants, je vous en parlais tout à l'heure, sur le pouvoir politique qui tient à accompagner ces transformations, ou en tout cas de tenir un peu les rênes du truc. Vous parlez de brutalisation du pouvoir, à la limite une interprétation foucauldienne du pouvoir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Enfin, comment ça se passe? Parce que tout s'est brutalisé à ce moment-là, par contre.
Par ailleurs, on est quand même dans un moment de famine, de guerre, d'exaspération de la montée de l'État. Bon, c'est équivalent de la guerre de 100 ans. Voilà, donc tout en fait accumule ces effets. Mais on peut pas dire non plus que l'après-peste noire est un monde plus violent, plus brutal ou plus autoritaire. C'est un monde qui peut le devenir. C'est-à-dire, en fait, vous parlez de Michel Foucault. Michel Foucault disait qu'un événement crée une possibilité de discours. Mais il crée aussi, cet événement, une possibilité de gouvernementalité. Donc il y a effectivement des gouvernements qui, en Europe et ailleurs, peuvent être possiblement plus autoritaires. C'est le cas, effectivement, en Italie. J'étudie Milan, qui est une ville qui est, voilà, que je connais bien. C'est là-dessus que j'ai travaillé. Les seigneurs de Milan sont accusés par les Florentins d'être des tyrans, et ils auraient, au fond, gouverné de manière tyrannique leur population en cherchant à la protéger. Et de fait, ils l'ont protégée, mais de manière un petit peu autoritaire, en confinant brutalement, etc. En fermant les portes. Bon. Mais en même temps, on ne peut pas dire non plus que après la seconde moitié du XIVe siècle, unanimement, voit dans tous les États européens une société plus autoritaire. C'est pas vrai, c'est même parfois l'inverse. Il y a même une génération après une grande vague de révolte, précisément parce que cet événement a créé un horizon d'attente. Justement, je parlais des salaires qui augmentaient un petit peu, c'est-à-dire on ne se révolte pas quand on est au plus mal du désastre. Dans ce cas-là, on essaye de survivre. On se révolte lorsque des attentes ont été déçues. Donc il y a toute une histoire politique, en fait, qui se met en place et qui m'intéresse, non pour ce qu'elle scanderait comme, là encore, comme chronologie fatale, que pour ce qu'elle rend possible.
Merci. Il y a un aspect qu'on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas dit le mot, on n'a pas évoqué la question de la religion.
Oui.
On n'a pas évoqué la question de Dieu. Et pourtant, dans l'imaginaire populaire, moi, j'avais en tête les, avant de lire votre ouvrage, j'avais en tête les défilés de pénitents. Je connaissais les pogroms antisémites. Quelle est la place de Dieu dans toute cette histoire? Première question. Et comment s'articule peste et antisémitisme? Parce que
alors, pas forcément dans le rapport à Dieu, justement, mais dans un rapport plus politique. Bon, évidemment, j'ai un chapitre sur le rapport à la fatalité, le rapport à la procession, le rapport à ce que Jacques Chiffolo a appelé le christianisme flamboyant, c'est-à-dire cette exubérance renforcée du sentiment religieux, etc. Tout cela, évidemment, par la nécessité de trouver des causes célestes, des causes dans la providence au mal qui frappe les populations. Tout cela est vrai. Un mal si énorme ne peut avoir qu'une cause dans, effectivement, le péché. Bon, voilà. Mais vous voyez, au plus haut niveau, le pape, donc le pape de la peste noire, c'est Clément VI. En même temps, il consulte des astrologues. En même temps, il organise le grand jubilé romain de 1350 pour que, effectivement, la machine à indulgence se mette en place. Mais il autorise les autopsies, mais il demande aux médecins ce qu'ils en pensent. Enfin, voilà, il y a une sorte de... c'est pas une défaite de la raison. La raison ne délire pas. Quoi.
Ça, on le voit beaucoup, on le voit bien dans votre livre que justement les médecins ne se laissent pas aller à délirer. Ils essayent de rester sur les faits. C'est assez bluffant d'ailleurs cette rationalité de cette période-là.
C'est une rationalité paradoxale. C'est vraiment pas des médecins qui ressemblent aux médecins de Molière. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Bon, ils vont mourir. Beaucoup meurent quand même. Mais ils vont quand même au combat. Au fond, ce qui serait déshonorant, c'est de ne rien tenter. Alors, les remèdes peuvent nous paraître ridicules, mais on aurait vraiment Enfin voilà, ça n'a pas de sens de se moquer.
Ça n'a pas de sens de se moquer. On a des remèdes dont on doute quand même.
Alors, vous voulez parler du cul du poulet, j'imagine.
Ah, je l'avais oublié, je pense à l'émeraude, mais le cul du poulet, c'est
bien
aussi.
Alors, le cul du poulet, c'est pas mal. C'est Jacques Mé d'Agremont qui est un médecin de l'Érida catalan. Qui dit bon bah alors ils ont compris ce que c'était qu'un bubon, ils savent que en suturant le bubon on a plus de chances de mourir, ce qui est vrai, hein. Guy de Chauliac, le chirurgien du pape, s'était d'ailleurs incisé lui-même un bubon et avait guéri. Bon, très bien. Et là il y a ce remède dont je parle parce qu'il est finalement dans tous les traités de médecine jusqu'au XVIIe siècle, c'est vous prenez un poulet, vous lui déplumez le croupion, vous appliquez en fait le cul du poulet sur le bubon, il va aspirer le venin, hein, c'est bien connu, les poulets respirent par le cul, hein, voilà.
N'essayez pas ça chez vous.
Et vous êtes guéri. Et on se dit, bon, ok, ça n'a aucune chance de... Et pourtant, ils continuent, ils améliorent le système jusqu'au XVIIe siècle. Donc c'est en fait une sorte d'expérience de pensée. Je ne pense pas qu'ils le faisaient. Mais en fait, ils disaient qu'ils allaient tenter de faire quelque chose. Bon, ça paraît ridicule. Beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus grave, et effectivement, la question que vous posez, c'est-à-dire le rapport entre... la peste comme épidémie et entre la peste comme émotion politique mortifère. Voilà. Peste noire et d'autres nuances de brun, on va dire. Et en particulier, le fait que à ce moment-là, lorsqu'une ville est frappée par la peste, ou pire encore, lorsqu'elle n'est pas encore frappée par la peste, mais qu'on l'annonce, la première chose qu'on fait, c'est qu'on tue des Juifs, massivement. À Strasbourg, le 14 février 1349, c'est 900 Juifs qui sont brûlés pendant 6 jours sur la place de ville, et également dans le sud de la France, et également en Allemagne, et également en Catalogne. Et ça... C'est le chapitre 13 du livre, celui qui m'importait le plus, parce que j'essaye effectivement de comprendre, là encore, vous voyez, je ne dis pas plus bouc émissaire que je dis résilience, parce que ce sont des mots trop faciles, ce sont des mots qui nous permettraient au fond de passer à autre chose, de comprendre. Ah bah oui, c'est normal, parce que... Ah bah oui, en fait, on croit qu'ils ont empoisonné les puits, comme avant les lépreux, comme après les sorcières. Il y a une sorte de schéma désespérément répétitif de la raison persécutrice. En fait, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas considérer que c'est normal et faire semblant de comprendre. Il faut ne pas éteindre trop vite le scandale. Pour ça que ce chapitre, il est un peu là encore. J'essaye d'enquêter. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg? Qui a décidé? Et en fait, c'est pas des flambées de violence comme un égout qui déborde. C'est pas un archaïsme. C'est pas une sorte de truc anthropologique de fond comme ça. Non, non. C'est des gens très froidement réfléchis, des politiques qui utilisent la haine des Juifs à des fins qui sont des fins gouvernementales, à chaque fois, et avec effectivement des arrière-pensées. On voit bien que s'attaquer aux Juifs, c'est une manière de s'attaquer au pape, c'est une manière de s'attaquer au roi, parce que les papes et les rois sont les protecteurs des Juifs. Et puis, c'est encore plus profond que ça. C'est que, au fond, ce qui est en jeu dans cette histoire, c'est la... Alors, du point de vue de la haine des Juifs, on voit bien comment un anti-judaïsme de type effectivement théologique, celui dont vous parlez, à la fin de cette épreuve, dès les années 1420-1430, par exemple en Espagne, est devenu un antisémitisme. C'est-à-dire, au fond, c'est racialisé, et que ce qui est pensé, c'est une communauté dont on va essayer de préserver la pureté de sang, une communauté immunitaire, c'est-à-dire qu'on doit immuniser contre le mauvais sang. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un autre monde. Alors oui, beaucoup plus brutal. Mais voyez comment les effets sont amortis.
Du coup, ça me permet de... Parce que là, le temps file. Mais du coup, dans ce chapitre-là, il y a quelque chose que j'ai trouvé totalement inexplicable, mais vous allez me l'expliquer. Mais la carte des pogroms liés à la peste en Allemagne recoupe la carte des destructions de la nuit de cristal 500 ans après en Allemagne.
Oui, alors ça, c'est effectivement...
Ça voudrait dire que cette espèce d'imaginaire collectif se transmet 500 ans plus tard. Enfin,
non, je crois pas. C'est à ce moment-là, effectivement, j'essaye de dire un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fascination pour justement la prégnance, la persistance, l'insistance d'un fond anthropologique qui ressurgirait comme ça. Et tous ces articles, j'en cite plein, il y en a des dizaines, ne sont pas des artistes d'historiens, ce sont des artistes d'économistes qui mettent effectivement, qui alignent des données comme ça. Et c'est un moment où j'essaie de dire, moi je veux bien faire de la science, mais j'essaye de faire de l'histoire avec la science d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, les scientifiques, ne faites pas de la science avec de l'histoire d'hier, quoi. C'est-à-dire ces histoires de vieux fonds, de datavisme, de peuple allemand qui serait structurellement antisémite, mais où vous avez lu ça? Bon, donc en réalité, tout ça, ce sont des artefacts. Ce sont des artefacts statistiques. Ce qui existe, c'est pas des archaïsmes de comportement. Ce sont des cultures politiques de gouvernement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière, il y a des cultures politiques de gouvernement par l'utilisation de la haine des Juifs. Voilà. Et c'est pas parce que, à ce moment-là, les Allemands sont particulièrement méchants. C'est parce que il y a des cultures politiques, effectivement, de gouvernement.
On arrive à la fin, j'imagine. Plus des questions contemporaines. Alors les épidémies, à la fin, quasiment dans la conclusion, vous dites c'est toujours un théâtre en trois actes. Hein, l'acte 1, le déni, l'acte 2, la compréhension, et l'acte 3, l'action. Et vous avez commencé tout ce travail comme une contribution pendant le Covid. Si on faisait le parallèle, en vous lisant la première chose, je me suis dit, mais on a vécu à peu près la même chose. C'est résilience, mais c'est cette adaptation, cette force des structures politiques à tenir face à une épidémie. Quels sont les parallèles qu'on peut tirer entre le Covid et comment ça peut nous éclairer le travail que vous avez fait sur la peste, sur le Covid et inversement? Alors, c'est la même chose.
J'aurais effectivement préféré ne pas avoir à faire cet exercice. Et quand j'ai commencé à travailler sur la peste, c'était en 2000, je vous l'ai dit, 17, 18. Et je devais effectivement au Collège de France, puisque ce livre est en fait procède de l'enseignement que j'y donne, et dans cette institution si particulière où je côtoie effectivement toutes les disciplines. C'est pour ça, au fond, que nous avons cette conversation-là. C'est parce que j'ai la chance de pouvoir parler avec des généticiens, des microbiologistes, des médecins, des archéologues, etc. Et quand le Covid est arrivé, c'est le moment où je devais faire cours. D'abord, j'ai pas pu, et puis ensuite, je l'ai fait, mais dans un amphithéâtre dépeuplé. Et j'ai failli ne pas le faire parce que ça me semblait obscène, en fait. Ça me semblait pas bien de parler d'une épidémie pendant une autre épidémie en faisant mine de croire que ça allait nous aider. Non, rien ne nous aide vraiment. Quand on est malade, il faut pas enflammer les imaginaires. Moi, le livre est au fond tenu et retenu par un texte absolument formidable dont je vous conseille la lecture, qui est le texte de la penseuse américaine Susan Sontag, qui s'appelle « La maladie et ses métaphores », et puis ensuite « Le sida et ses métaphores », et qui dit au fond que pour être juste avec les malades, il faut leur dire qu'ils souffrent juste d'une maladie. C'est juste une maladie. C'est pas une malédiction. C'est pas voilà. Donc je voulais un truc un peu retenu, vous voyez. Mais maintenant, on peut pas faire. Voilà, je l'ai fait ce cours, et puis ensuite j'ai fait un livre avec ce cours, et donc aujourd'hui, bien sûr que la question. Et puis le livre, de toute façon, il se termine sur l'idée de confusion des temps, sur laquelle on a commencé. Et même de théâtre de la peste qui frapperait ces trois coups. Et donc on ne peut pas, au fond, ne pas revenir sur ces questions. Je répondrai à toutes vos questions, si vous le voulez bien. Précisément parce que, justement, il y a quelque chose de tenace et d'inévitable dans la structure du récit épidémique. Cette question des trois actes, c'est effectivement, elle a été, c'est un historien américain du choléra, Charles Rosenberg, qui l'a écrit au temps du sida, où il avait remarqué d'une certaine manière que finalement les épidémies se déroulaient toujours avec le même engrenage fatal, celui que décrit d'ailleurs la peste de Camus, qui n'est pas une pièce de théâtre, mais qui a sa dramaturgie. Et comme vous l'avez dit, dans un premier temps, on ne dit pas le nom. On pense qu'en ne disant pas le nom, on va conjurer le mal. Et à ce moment-là, finalement, tous les signes s'accumulent, mais la décision n'est pas prise. Et c'est le scandale, au fond, de l'impréparation ou l'hypocrisie des pouvoirs qui suscite en fait l'acte 2, c'est-à-dire le moment où on agit, le moment foucauldien où la société de contrôle se met en place. Mais il faut au fond qu'il y ait un scandale, qu'on accuse les pouvoirs de ne pas nous avoir protégés, pour que, en fait, la prise de conscience ait lieu et que tout le monde se protège et que tout le monde accepte finalement de, parce que c'est ça le problème, hein, de limiter sa liberté d'action, de circulation pour se protéger. Et on rentre dans un moment dangereux qui est celui que du complotisme, puisque entre le syntagme les pouvoirs ne nous ont pas protégés et le syntagme les pouvoirs nous ont empoisonnés, il y a effectivement un glissement toujours possible. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette dramaturgie, dans ce théâtre de la peste, je termine là-dessus, sur le théâtre de la peste, c'est que la peste est un bien piètre dramaturge qui ne sait pas finir. Parce qu'il n'y a pas de fin. Le troisième acte, c'est le début de la fin. Mais il n'y a pas de fin. La troisième pandémie de peste est en cours. Aucune maladie infectieuse n'est totalement éradiquée aujourd'hui. Quand on pourra dire le sida est terminé. C'est-à-dire que une épidémie, ça n'a pas de fin. C'est d'ailleurs c'est comme ça que se termine la peste de Camus. Quant à moi, dit la peste, je retourne dans mes vieux grimoires, dans mes greniers, dans mes réservoirs animaux, et ciao, à la prochaine. On n'est pas obligé de sortir le grand jeu à chaque fois, mais il y a cette idée-là. Et pour en reparler, c'est vraiment pas mon genre de faire la leçon depuis le passé. Mais cette inquiétude-là, elle nous est commune. Ce qui fait que, vous voyez peut-être pas la couverture, c'est trop loin, mais j'ai choisi comme couverture un tableau de Guillaume Bresson, qui est un artiste contemporain, qui a fait toute une série de tableaux sans titre, en 2023, donc très récemment, sur le Covid. Et ce sont des hommes et des femmes qui tombent. Et vu de loin, on dirait vraiment un tableau du passé. Vu de loin, on a l'impression que c'est un Caravage et que ce sont effectivement des anges qui chutent du ciel. Et c'est quand on se rapproche qu'on se dit « c'est nous ». C'est nous, en fait. Nous sommes embarqués, ou nous sommes effectivement, nous sommes de ceux et celles qui tombent. Et ce mouvement-là, qui consiste au fond à se rapprocher d'un objet du passé pour comprendre qu'il n'est pas passé, en fait, que l'événement est en cours et que dans l'archive du vivant, il est un lieu dans nos corps où la peste sévit encore, où elle est. Puisque nous sommes toutes et tous les héritières et les héritiers de survivantes et de survivants de la peste noire. Donc il faut bien qu'ils en aient réchappé. Il faut bien qu'ils aient développé dans leur patrimoine génétique des allèles et des gènes qui les rendent moins vulnérables. Il faut bien aussi que ce qui les protège de cette maladie du passé nous rende, nous, plus... vulnérable à d'autres maladies, et tout cela effectivement fait le mouvement du temps.
Patrick Boucheron, merci infiniment.
Merci à vous
d'avoir pris le temps de partager.